franceinter.fr.
Rapatrier, soigner les blessés au combat, c'est une étude unique sur les fourmis combattantes de Côte d'Ivoire à la une de la science aujourd'hui.
À 08h00, nous avons appris que l'ennemi Termite avait mobilisé ses troupes. Il ne nous laisse pas le choix. Le sacrifice. Pour certains, ce n'est qu'un mot. Pour d'autres, c'est une règle. Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la colonie. Le soldat veut vivre pour la colonie. Se battre pour la colonie. Mourir pour la colonie.
Voilà, et comme dans ce film d'animation Fourmis, on a un peu tous en tête cette idée que seule la colonie compte chez les fourmis, mais une étude vient prouver le contraire. Des chercheurs allemands démontrent dans la revue Science que lors de combats avec les termites, certaines fourmis africaines ramassent leurs blessés, les ramènent au nid et les soignent rapidement, leur permettant d'échapper donc à une mort certaine. C'est une activité de secouriste unique chez les insectes et fascinante que nous commentons, Axel, avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes en duplex depuis France Bleu Touraine avec Élise Nobary. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, maître de conférences à l'Université Paris 13 et spécialiste du comportement des fourmis depuis plus de 30 ans. Alors, est-ce qu'on peut vraiment comparer la façon de faire de ces fourmis africaines à celle des pompiers ou des médecins de guerre chez les hommes ?
Oh, bien sûr, je ne sais pas exactement pareil, mais parce qu'on a toujours envie de comparer des insectes avec l'humain. Et, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours... Très intéressante une comparaison avec l'humain. Mais oui, il y a certains comportements qui ressemblent quand même et qui sont très proches.
Alors, on peut imaginer un peu ce qui se passe sur le terrain, puisque ces fourmis de Côte d'Ivoire sont des chasseresses, elles attaquent des termites. Comment ça se passe alors, ces raids ?
En fait, ce sont des fourmis qui mangent des termites, ouais. Donc c'est leur nourriture. Et donc, ils font plusieurs attaques... plusieurs raids par jour et il essaye de avoir maximum de proies pour manger. C'est une question comme les autres animaux, comme les lions, comme les tigres, pour chasser et vivre.
Et bien sûr, il y a des blessés parfois.
Et certainement, il y a des blessés parce que les termites sont des individus, des animaux redoutables. Et ils vont attaquer aussi les fourmis, ils se défendent. Et très souvent, non seulement ils utilisent des armes chimiques, mais aussi ils essayent d'agripper des blessés. Et parfois, ils restent agrippés à des fourmis et certaines fourmis sont blessées.
Quand vous parlez d'armes chimiques, vous faites allusion à quoi alors exactement ?
Alors, chaque insecte utilise différentes façons de se défendre. Les gros animaux, normalement, utilisent donc leur force, des dents ou des crocs. Mais les petits animaux, comme les insectes, utilisent l'arme chimique, c'est-à-dire des substances chimiques, comme les acides ou autres, qui peuvent les aider à se défendre.
Alors, comment s'organise la prise en charge des blessés sur le terrain côté fourmis ?
Alors, les fourmis, ces fourmis chasseuses, si vous voulez, elles vont chercher donc les individus blessés, leurs congénères blessés, et elles les ramènent au nid et elles les traitent. Elles essayent de guérir, enfin faire guérir, de faire certains traitements pour qu'elles guérissent.
Les blessures les plus communes, c'est quoi ? C'est des pattes coupées ? Ça va plus loin que ça ?
Surtout des pattes coupées, mais ça peut être aussi certaines parties de leur corps, à mon avis. Mais bon, certainement, c'est des pattes qui est le plus fragile, le plus accessible pour les termites.
Élise Nobary, c'est la première fois qu'on l'observe, ça, chez des insectes, cette faculté de prendre en charge les blessés ?
À mon avis, oui. Chez les animaux, même pas seulement sur les insectes, on a certaines anecdotes, enfin, des choses qu'on raconte sur les animaux. Par exemple, chez les singes, que les singes, ils essayent de traiter ou guérir faire certains traitements par rapport à leurs blessés. Mais dans une étude vraiment expérimentale, à mon avis, c'est une des premières fois.
Oui. Est-ce que ces chercheurs allemands qui commentent ces travaux ont pu calculer un taux de survie ? Est-ce que ces soins sont efficaces ? Comment scientifiquement ils se sont intéressés au problème ?
Ils ont fait quand même, non seulement ils sont allés sur le terrain et voir et faire des calculs statistiques, comment ça se passe au niveau de, le taux de, des individus blessés après guérir ensuite, mais ils ont fait aussi, ils ont simulé les expériences différentes au laboratoire, c'est-à-dire qu'ils ont coupé des différentes parties de termites, surtout, pardon, des fourmis, des pattes des fourmis. Mm-hmm. Et donc, ils ont essayé de voir comment ça se passe. Et ils voient que le taux de guérison peut augmenter pratiquement 80%. Donc, ce qui c'est vraiment un taux, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est 80%,
si,
oui, je
voilà,
crois.
C'est 80%. Si elles ne font pas ce traitement, si elles n'arrivent pas à essayer de faire le tout à l'étage, peut-être un traitement spécifique qu'ils font avec ce type de léchage, sur, si vous voulez, les parties blessées, leurs congénères, leurs camarades peuvent mourir avec un taux très important, de 80%. Donc, dans l'heure qui suit, c'est-à-dire qu'il diminue même ce taux de
mortalité
de mortalité à 10%. Mmh. Donc, c'est extrêmement intéressant.
Fleur de Jay, vous qui êtes éthologue hein, également, vous connaissiez ces travaux sur les fourmis
non,
ou pas
encore.
C'est étonnant quand même.
Je suppose que ça vient de sortir, oui. Ah ouais. Et c'est très intéressant parce que ça montre aussi que il n'y a pas seulement la force de la compétition dans la nature, parce qu'on parle souvent, on pense souvent que la nature est régie par la loi du plus fort. La coopération, c'est aussi une force évolutive importante, et je pense que ce genre d'études, ça le montre aussi qu'on peut l'entraide, l'altruisme, la coopération sont aussi intéressantes.
Élise Nobary, vous avez été une des premières à mettre en évidence ce type d'entraide chez les fourmis. C'était en 2009. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu et bien sûr, c'est la stratégie principale, l'entraide chez les fourmis.
Exactement. En effet, Eric Franck m'avait contacté aussi une fois qu'elle avait vu ce comportement. Et il m'a parlé de ce que nous avons fait en 2009, et à la suite de différentes publications que nous avons publiées. En 2009, suite à une observation sur le terrain, et aussi qu'on a pu après faire des expériences simulées, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu sur le terrain au laboratoire. Mmh. Et nous avons vu que les fourmis, quand elles sont dans la détresse, enfin, elles sont prises au piège par le débris de sable ou bien par les prédateurs comme fourmilions. Les autres fourmis, les fourmis de la même colonie, pas les autres colonies ni d'autres espèces, ils viennent essayer de chercher et de les aider, de les libérer de pièges. Et là, c'est extrêmement intéressant, c'est incroyable ce qu'ils font. Elles essayent de creuser le sable, de tirer leurs pattes, comme dans le cas des tremblements de terre, quand quelqu'un est piégé par les pierres ou autre chose. Ce qu'on fait exactement quand on n'a rien à notre disposition, on essaye de gratter, enlever maximum, et une fois qu'elle arrive à la fourmi qui est dans la détresse, si c'est attaché comme on fait au laboratoire par une sorte de fil, il essaye d'enlever le fil, de tirer le fil, et si c'est un insecte comme fourmilion qui le prend, très, très courageusement attaque les mandibules de cet féroce animal et il essaye de libérer leurs camarades. Donc, on a essayé plusieurs expériences de cette manière, et c'est vraiment étonnant. J'ai regardé des dizaines et dizaines de vidéos, et chaque fois, je suis extrêmement étonnée. Enfin, pour moi, c'est incroyable qu'un insecte puisse faire des choses pareilles.
Voilà, les propriétés et les capacités d'urgentiste hein, des fourmis qui n'ont pas fini de nous étonner, effectivement.
Oui, Élise Nobary, aussi la connaissance, la cognition, comment elles peuvent de voir différentes façons, différentes conditions et essayer de résoudre leurs problèmes, un problème.
Merci en tout cas pour votre éclairage, Élise Nobary, et merci aux équipes de France Bleu Touraine qui nous ont permis ce duplex cet après-midi. Axel, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, en 16 ans, 100 000 orang-outans ont disparu sur l'île de Bornéo. Triste décompte fait par des chercheurs dans la revue Current Biology, majoritairement et voire exclusivement dû aux activités humaines. Déforestation pour la culture d'huile de palme, activités minières ou papeterie. Les forêts de Bornéo se morcellent de plus en plus et l'habitat de ces grands singes se réduit. Plus inquiétant, des pertes ont été également enregistrées dans des zones plus à l'écart des activités destructrices. Preuve que la chasse et les conflits entre singes et habitants sont également à l'œuvre dans les forêts de Bornéo. Une cartographie des fuseaux horaires de nos organes. Une équipe de chercheurs de l'INSERM publie dans la revue Science la preuve qu'il est important de tenir compte de notre horloge biologique et de nos rythmes circadiens dans la prise de médicaments. En effet, chaque organe a son propre cycle d'activité génétique dans la journée et dans la nuit. En cas de traitement médicamenteux, l'efficacité pourrait être fortement améliorée, les effets secondaires diminuent en respectant ces rythmes. Les chercheurs préparent un atlas circadien de nos organes qui sera bientôt disponible pour toute la communauté. Et puis pour terminer, des sculptures rupestres de grands animaux en taille réelle, découvertes en Arabie Saoudite. Ce site dit du chameau, exploré par une équipe franco-saoudienne près de Jawaf, au nord du pays, date de l'ère chrétienne. Trois éperons rocheux y sont ornés de plusieurs gravures en relief, représentant donc des chameaux, des dromadaires et des chevaux. Des animaux toujours représentés en taille réelle et sans attache. Selon le chercheur Guillaume Charlot, à l'origine de la découverte, la position des sculptures indique une maîtrise des cordes et des techniques acrobatiques. Des photos de ce site sont visibles sur le Facebook de La Tête au Carré.